Bonsoir. Donc, nous avons le quorum. Donc, cette noble assemblée va pouvoir valablement délibérer. Je vais donc annoncer l'ensemble des pouvoirs parce qu'il y en a pas mal. Jean-Pierre Fenouille à moi-même. Donc, Jean-Paul Jamais à André Maillot. Sylvie Clémenceau à Marité Lemaire, Karine Cozard à Christiane Picard, Nathalie Reynaud à Benoît Valenzuela, Michel Grenier-Bollet à Marcel Crotte, Isabelle Thomas à Jérôme Mété. D'autre part, il y a Thierry Luc qui m'a envoyé un message pour s'excuser. Bien, donc... voir si vu. Je propose comme secrétaire de séance Marité Lemaire. Pas de problème. Je vous soumets le compte rendu du conseil municipal précédent. Pas de remarques. Donc ce compte rendu est adopté à l'unanimité. Voilà, donc avant d'ouvrir ce conseil, je fais un petit rappel fait au niveau du conseil municipal pour Nicolas Pagé qui a perdu son grand-père, et donc on souhaite tout notre soutien. Hein, donc voilà. Et donc j'ai vu Pierre que tu as préparé un texte pour Alain Grandjean, donc voilà, c'est très bien. Donc il sera dans le prochain bulletin municipal qui sortira. Voilà. Donc j'aborde l'ensemble des points. Le premier point concerne le schéma mutualisation des services, prestation des archives, convention CCPRO. Donc, je vous explique en 2 minutes, nous sommes en plein dans une réflexion de mutualisation, puisque nous en sommes en plein dans les économies, hein, et qui dit économie, dit essayer de faire en sorte de regrouper nos forces. Donc, à la CCPRO, nous avons recruté une archiviste, donc Delphine, qui peut intervenir dans les collectivités à notre demande, etc. C'est ce qu'on va vous soumettre aujourd'hui, ce qui fait qu'au lieu de passer par un prestataire, jusqu'à présent, on passait par un prestataire qui nous coûtait assez cher. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Je l'ai vu tout à l'heure à la CCPRO, et elle m'a dit, vous allez parler de moi ce soir. J'ai dit oui, pas de souci. Au cours des réunions de travail organisées en 2014 et 2015, dans le cadre de l'élaboration du schéma de mutualisation des services, un des points portés sur la question des archives. La majorité des communes dans la nôtre avait exprimé à la CCPRO des besoins de formation en gestion de l'archivage électronique et en traitement des archives papier. Les dispositions des articles du Code général des collectivités octroient en effet aux communautés des communes la possibilité de réaliser des prestations de services relevant des attributions des communes membres et pour le compte de ces dernières sous la forme de conventions de gestion d'équipements ou de services. Par ailleurs, la CCPRO est habilitée, de par ses statuts, à effectuer des prestations de services au bénéfice de ses communes membres de toute collectivité. Dans le cadre de cette procédure de mutualisation, une convention ayant pour objet de préciser les conditions techniques, administratives et financières pour le compte des communes membres intéressées d'une prestation dans le domaine des archives devra donc être signée entre la CCPRO et chacune des communes intéressées. Ces prestations concernent le traitement des archives, la gestion des éliminations, l'élaboration d'outils de gestion, sensibilisation, formation et accompagnement des agents, aide et conseils sur les archives électroniques, suivi de gestion des archives, aide au recollement obligatoire des archives, conseil sur l'aménagement des locaux, conseil d'assistance en matière de conservation préventive, action de valorisation. Le coût de ces prestations sera refacturé en réel aux communes après service fait sur la base d'un taux horaire de 24 euros hors taxe de l'heure, soit un forfait journalier de 168 euros hors taxe. 7 heures, temps de trajet inclus. Aucun fonctionnement inférieur à 8 journées ne sera appliqué. Cette somme est évaluée hors taxe, mais ces prestations sont assujetties à TVA suivant le taux en vigueur. Vu le code général des collectivités, vu le code du patrimoine, le projet de convention annexé, considérant que dans le cadre d'une bonne organisation des services, d'une optimisation des ressources et des moyens, la nécessité pour la commune de Corsedon ne pourra bénéficier de manière temporaire à l'assistance des services à CPRO, considérant que ces prestations doivent se concrétiser par la signature d'une convention, le conseil municipal, où l'exposé du maire est présent à avoir délibéré, c'est l'objet du vote, approuve le projet de convention de prestation archive autorise la signature de la convention annexée, habilite Madame le maire à la signer, puisque moi je suis président de l'Interco, pour éviter, dit que les dépenses liées à l'acquisition de ces prestations seront inscrites au budget principal supplémentaire 2018 et les budgets suivants. Je mets aux voix qui est contre.
Alain, oui, j'ai une petite question. Concrètement, ça revenait à combien jusque-là avec le prestataire, le tiers?
Ouh là là. Ouais. Ouais. Et je dirais surtout que
annuellement, c'était quel montant à peu près?
Globalement, nous on a eu un gros travail à faire, mais on a eu un prestataire qui était efficace, mais qui, comme il travaillait à son compte, bon, voilà. Et puis ça finissait pas. C'est-à-dire que en gros, il disait, mais j'ai pas terminé. Ah, c'était très long. Voilà. Donc là, par contre, ça va être. On l'a fait visiter à Delphine, à la Drouvette, qu'on avait des archives super, parce que vous avez vu, au sous-sol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même, on a fait quelque chose de bien, et donc, elle a visité les archives, d'ailleurs, de toutes les communes, donc, j'ai vu qu'il y a des communes où les archives sont au clocher de l'église, donc, j'ai appris ça. Bon, nous, c'est vrai que, déjà, on a un travail qui a été efficace, donc on sait qu'on va vraiment y gagner sur le plan de la prestation. C'est la raison de poser la question. Voilà. Une fois qu'on a signé la convention. Oh, ça.
Non. On a le total de la mission, il y a près de 80 mètres linéaires à archiver, et elle compte une journée par mètre linéaire de moyenne.
Voilà, une journée, donc ça fait.
C'est le maximum. Hein,
voilà. Je pense que ça va. Voilà.
Ça va faire dans les 13 000 euros.
Voilà, j'ai dit une dizaine de mille euros. Voilà. Parce qu'on a dépassé beaucoup plus avec le prestataire précédent. Je mets aux voix, qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Le point 2, autre participation, actualisation, 10, collège Saint-Exupéry. Par délibération du 27 décembre, l'Assemblée délibérante a approuvé le montant des participations au titre de l'année 2018. Il s'avère que la contribution estimée par le service incendie paraît être insuffisante. Le montant estimatif était de 153 000. La participation demandée est de 155 703. Il conviendra d'approuver un réajustement de cette participation pour 2 703 euros. Pour le syndicat du collège, il s'avère également que la contribution paraît être insuffisante. Le montant estimatif de participation était de 73 800 euros. La participation demandée est d'un montant de 80 296 euros 98. Il conviendra d'approuver un réajustement de cette participation. Le conseil municipal Yahoo exposé du maire est présent le mardi libéré, objet du vote. Approuve le réajustement de ses participations, autorise Monsieur le maire à signer toute pièce rapportant la présente délibération, dit que ses participations sont inscrites au budget 2018 de la commune. Je m'explique, si vous voulez, donc, on a toujours quand même une réserve au niveau des participations. Comme je l'ai expliqué en commission des finances, au niveau du SDIS, c'est très aléatoire, mais on sait que chaque année, ils augmentent leurs prestations. C'est une prestation qui est quand même plus que doublée dans l'espace de 15 ans. Et au niveau du collège, c'est doublement aléatoire parce que c'est le collège ne fait son budget que tard, donc j'en suis vice-président, on a présenté le budget il y a un mois, et d'autre part, c'est fonction du nombre d'élèves qu'on a et du nombre d'élèves que les autres communes ont ou n'ont pas. C'est-à-dire que même si la somme globale reste identique, si d'autres communes ont moins d'élèves et que nous, on en a plus, ça nous fait un report qui est plus important. Voilà. Donc, on avait évalué sur un certain nombre d'élèves et de participations, et nous avons droit à une augmentation, donc le conseil municipal approuve le réajustement pour un montant de 9 199 euros, autorise le maire à signer toute pièce rapportant la présente délibération. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Une abstention. Majorité, je vous remercie. Le dossier 3 concerne les subventions exceptionnelles. Suite à l'avis de la commission des finances, il est proposé de procéder à l'octroi d'une subvention exceptionnelle aux associations suivantes. Les 5 pas de courtaison, 100 euros dans le cadre de la qualification de Monsieur Serra Henry au championnat de France à Nantes. Vous savez que c'est une routine, hein, donc quand quelqu'un participe à un championnat de France, que ce soit à Aix-en-Provence ou à Lille, on lui attribue 100 euros. La maison des petites frimousses, 200 euros pour aider au règlement des charges de fonctionnement. Le comité de jumelage, 4000 euros, mais ça c'était déjà acté dans le budget. De subvention d'aide au lancement, c'est le budget de fonctionnement du comité de jumelage, et la bibliothèque qui nous a demandé 150 euros pour la mise en place du projet Printemps des poètes. Vu l'avis favorable de la commission municipale des finances du 12 février, considérant les crédits ouverts au budget principal, le conseil municipal y a voulu exposer du maire et, après en avoir délibéré objet du vote, décide d'accorder les subventions exceptionnelles susvisées pour un montant total de 4 450 euros, dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 de la commune. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Une abstention. Majorité. Je vous remercie. Donc, vous allez avoir donc toute une série maintenant d'opérations budgétaires, mais qui visent à chercher des financements. C'est la règle d'or aujourd'hui. De toute façon, il faut qu'on arrive à trouver des subventions. Ici, donc, je vous lis le projet. La communauté des communes des pays réunis d'Orange, de la commune de Courtaisan, envisage de réaliser un parking au sud de la voie avenue Général Leclerc à Courtaisan. L'ensemble des travaux est considéré comme constitutif d'une même opération. Afin de répartir les commandes en fonction des compétences de chaque collectivité, la CCPRO et la commune de Courtaisan ont donc décidé de se regrouper et signer une convention de groupement de commandes. La CCPRO n'ayant pas la compétence pour l'aménagement paysager, le lot 2 du marché, celui-ci sera réalisé et financé par la commune de Courtaisan. Au titre de 2018, les dépenses correspondantes au lot 2, aménagement paysager, ont d'ores et déjà été inscrites au budget programmé pour les travaux en 2018. Le montant des dépenses est estimé à 22 999 euros hors taxe. Il convient donc par la présente délibération de solliciter l'intervention du FDIE, exercice 2018, pour ces travaux d'aménagement paysager du parking Leclerc. Conseil municipal, il y a où l'exposé du maire, après avoir délibéré, objet du vote, valide les travaux pour l'aménagement paysager, pour 22 999 euros hors taxe, sollicite l'octroi d'une subvention auprès des différents partenaires et acteurs pour ces travaux, dit que les crédits et le paiement sont inscrits au budget, certifie que ces travaux n'ont fait l'objet de ce jour d'aucun commencement d'exécution, on a attaqué les travaux de parking mais pas les espaces verts, autorise le maire à poursuivre toute démarche et signer toute pièce administrative relative à la présente délibération. Pour mémoire, au niveau des espaces verts, le budget initial, enfin, qu'on avait envisagé, tournait plutôt autour de 45 000 euros. Et puis, on a réussi à faire tomber ce budget à 23 000 euros. Et c'est pour ces 23 000 euros qu'on va faire une demande de subvention. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, construction de la crèche multi-accueil. Avec un RAM, la HEP, choix du lauréat. Par délibération du 23 novembre 2017, le conseil municipal avait approuvé le lancement d'une procédure de concours d'architecture ainsi que la construction d'un jury de concours pour la construction d'une crèche multi-accueil et une partie réservée au RAM ainsi qu'un LAEP, lieu d'accueil enfants par an. Par décision du jury, en date du 4 décembre 2017, trois candidats présentant des caractéristiques professionnelles et des sensibilités variées ont été admis à présenter une offre. R+4 architecte de Folcalquier, Portal Tessier de Castelnau et ACC architecte de Vaisseul-Romaine. Les trois projets ont été reçus le 2 février 2018 et analysés de manière anonyme par M. Farcy du cabinet IMOCA, assistance à maîtrise d'ouvrage. Bleu, rose, orange, j'ai eu ça pour ceux qui étaient à la commission d'appel d'offres, c'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment opacité et que ça soit clair, nous on avait des pastilles qui avaient des couleurs, on ne savait pas du tout dans quel était architecte qui avait travaillé. Le jury du concours s'est de nouveau réuni le 20 février 2018, donc il y a peu, pour retenir le lauréat du concours. Au terme d'une heure cinquante d'analyse, le délibéré a été le suivant. Le projet bleu, 0 voix. Le projet rose, 0 voix. Le projet orange, 7 voix. 7 voix, c'est le nombre de personnes. C'est-à-dire que le projet orange a fait l'unanimité. Après levée de l'anonymat, l'agence Portal Tessier a été déclarée lauréate du concours. Donc, Portal Tessier, qui est de Castelnau-le-Lez. Le projet retenu est présenté à l'Assemblée municipale. Le montant total des travaux est estimé à 1 200 000 euros hors taxes. Les frais de maîtrise d'œuvre, forfait provisoire de rémunération, se montent à 141 600 euros, soit un taux de rémunération de 11,80%. Option d'une OPC d'un montant de 14 400 euros. Il convient par la présente délibération d'entériner l'avis du jury et d'autoriser la poursuite de la procédure. Vu l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public, vu le décret du 25 mars 2016, toujours pour les marchés publics, considérant l'avis du jury, du 20 février 2018, le conseil municipal ayant voulu exposer du maire et après avoir délibéré, objet de vote, retient l'agence portant-essier de Castelnau pour assurer la maîtrise d'ouvrage, dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2018 et suivant, autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces rapportant la présente délibération. Avant de passer au vote, je rappelle un petit peu donc les éléments et le contexte. C'est une opération APCP, hein, c'est-à-dire on l'a mise sur 2018-2019. En fait, 2018, il va y avoir tout, bien qu'on ait travaillé là, donc on est en février, la première pierre sera décembre 2018, janvier 2019. Vous voyez, tout le temps que ça représente, puisqu'il y a un marché à ouvrir. Ensuite, il y a aussi un permis à instruire, un permis, donc recours des tiers, etc. Ça prendra beaucoup de temps. Donc, cette opération, on l'avait intégrée dans le budget. Les trois clients qu'on avait en quelque sorte sur les trois, il y en a deux qui nous ont fait un projet à 1,2 million, il y en a un qui l'a fait à 1,6 million par exemple. Vous voyez, donc bon, je vous cacherai pas que on l'a écarté, fait, c'était unanime parce que de ce coup ça nous faisait exploser les chiffres. Voilà. Voilà les éléments que j'ai à vous expliquer. C'est inscrit dans notre ligne budgétaire. Il y avait un jury, on avait associé aussi la directrice et la présidente de la crèche qui n'ont pas participé au jury, mais qui ont été voilà, enthousiastes de voir le choix que l'on avait fait. Je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir le... Où c'est qu'ils sont les éléments ? Ils sont en salle de réunion. Si vous avez l'occasion de passer en salle de réunion, vous verrez les pastilles, c'est la pastille orange. Donc, nos architectes jury... on va apprécier parce que ça fait un peu rappel des remparts. Voilà, donc il y a ce côté-là. Nous, on a beaucoup regardé la fonctionnalité. On a regardé le coût de fonctionnement. On a regardé l'acoustique. Enfin, tous ces éléments-là. Il ne faut pas oublier que c'est une crèche qu'on est en train de faire. Donc, dans l'ensemble, on peut espérer que le résultat sera porteur. Ce qu'on sait déjà, c'est que cette crèche sera remplie. Donc, parce que, bon, ben, il y a du monde en liste d'attente. C'est comme ça. Bon, ben, c'est tant mieux. Donc voilà, là, aujourd'hui, la délibération, c'est de retenir l'architecte, qu'on ne connaît pas spécialement, mais je félicite d'ailleurs le service des marchés publics, Julie qui est en congé maternité à partir d'aujourd'hui, hein, c'est ça, voilà, mais qui a mené ce dossier tambour battant jusqu'au bout, et puis, voilà, et puis la société Imoca qui nous a encadré, qui va encadrer tout le chantier, parce qu'il maîtrisait parfaitement le dossier, donc il a su répondre aux questions aussi bien de nous, que des architectes. Je me félicite aussi qu'il y ait eu unanimité. Ouais, c'est plus délicat quand on s'aperçoit que les avis sont partagés sur un chantier. Enfin, se dit, voilà, là, on s'était pas concerté du tout d'ailleurs. Hein, donc, et ma foi, quand il a fallu passer au vote, il y a eu unanimité. Donc, je mets aux voix qui est contre. Abstention. Ah non, je sais pas ce que. Voilà, abstention. Pardon, parfait. Et majorité, je vous remercie. Dossier suivant, modification horaire, service technique ménage. Suite à la reprise en régie de l'entretien de certains bâtiments communaux, le stade de la Roquette, le centre de loisirs, CCAS, l'amplitude horaire du service ménage doit être repensée et adaptée afin d'assurer ces nouvelles interventions de plus de l'entretien des locaux déjà assurés par les agents municipaux. Cette nouvelle organisation permettra d'assurer une meilleure qualité du travail et de répondre plus efficacement aux attentes en matière d'intervention technique. Amplitude horaire, l'ensemble des agents, 6h-21h à partir du 1er janvier 2018. Je parle bien de l'amplitude horaire, je parle pas de leur journée de travail, hein, qui serait quand même un peu illégal. La durée quotidienne, l'amplitude maximale de travail, le repos quotidien seront respectés conformément à la réglementation du temps de travail. Les agents assurant le ménage au centre de loisirs ne pourront pas poser de congés annuels pendant les périodes de vacances scolaires. C'est un point qui a été largement débattu puisqu'on a fait un comité technique. C'est normal, on a besoin d'eux à cette période-là. Vu l'avis du comité technique qui s'est tenu le 12 février 2018, le conseil municipal y a voulu exposer du maire et après avoir délibéré, approuve les nouveaux horaires et contraintes et les services techniques ménages tels que définis ci-dessus, autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces rapportant à la présente délibération. Voilà, le comité technique s'est tenu et il a validé les propositions qui étaient faites. Je mets aux voix qui est contre.
Alain, juste oui. Une question, parce qu'Isabelle étant absente, elle a soulevé ce point. Concernant justement ce nota bene.
Concernant?
Le nota bene des agents assurant le ménage au centre de loisirs. On comprend très bien que le centre de loisirs, pendant les vacances scolaires, il ferme pas. Donc
oui.
Il faut bien que le ménage continue à être assuré. Par contre, les agents aujourd'hui qui assurent le ménage, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'enfants. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, si c'est des gens, des agents qui ont des enfants, est-ce qu'ils sont contraints tout de même de pas prendre de vacances? Voilà, c'est, qu'est-ce que, parce que tu dis que ça a soulevé des questions au comité technique, je pense que ce, voilà, le débat qu'on a eu nous en préparant le conseil, vous avez dû l'avoir,
au comité technique, quoi. Un comité technique, il s'est posé des questions d'ordre horaire, mais alors, sur cet aspect-là, il est validé. Sans problème. Les représentants du personnel savent très bien, ben c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie, ben il sait qu'il travaillera le samedi, dimanche et le soir, par exemple. Donc c'est une chose qui n'a pas fait débat.
D'accord.
Voilà.
Alors, ça représente, il y a combien d'agents, en fait, qui sont concernés?
Deux agents.
Donc les deux agents, ils ont pas le droit de prendre des vacances.
Voilà. Pendant les vacances scolaires.
Pendant les vacances scolaires. Voilà.
D'accord. Ça arrive dans bien beaucoup de services, hein, où on dit.
Non, mais je veux dire aujourd'hui, ça les dérange pas ces deux agents.
Non.
Donc demain.
Quand on les recrute, les gens ils le savent en plus. Hein.
Voilà. Demain c'est un autre agent qui est concerné. Ah mais ce sera le même tarif.
Il sera très bien que s'il rentre dans cette structure là, eh bien il sait qu'il est il est là. Pendant la période où on a besoin de lui, il est là pour ça. Sinon, on le recrute pas. Ce que j'ai dit, voilà, les agents qui travaillent au centre de loisirs, effectivement. Donc, voilà, ça fait partie de
il n'y a pas de c'est pas un arrangement, mais bon, de possibilité, je dirais, de dire, bon, bah, on fait une semaine, un coup c'est toi, un coup c'est moi, ils allègent.
Parce qu'on n'a pas suffisamment de roulement. Et au contraire, c'est le moment où on a la saturation. On a besoin de tout ça. Voilà. On peut pas.
D'accord.
Je sais pas si j'ai fait voter. Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Abstention. Voilà. Abstention. Levez le doigt. Voilà. Voilà. Parfait. Majorité, je vous remercie.
D'accord. Donc, juste
le dossier suivant. Modification des statuts de la CCP Roux concernant GEMAPI. Par délibération du 26 janvier 2018, le Conseil de communauté a approuvé la modification de ses statuts conformément au projet qui était joint. Il s'agissait à l'espèce de prendre en compte une nouvelle compétence obligatoire GEMAPI, ainsi que l'intégralité de la compétence éclairage public qui ne portait jusqu'à présent que sur la maintenance. Par application des dispositions du Conseil des collectivités territoriales, la CCP Roux, par courrier en date du 6 février 2018, nous a notifié cette délibération portant modification des statuts. Néanmoins, elle deviendra effective qu'après arrêté préfectoral. Elle a en effet subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement, majorité de 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population ou moitié des conseils municipaux représentant 2/3 de la population. Vu la délibération de la communauté des communes de 26 janvier 2018, le conseil municipal y a voulu exposer du maire après avoir délibéré, objet du vote, approuve la modification des statuts de la CCP Roux, autorise le maire à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération. Bon, en deux mots, si vous voulez, on a, dans nos statuts, on a rajouté une compétence, hein, je rappelle que l'intercommunalité a des compétences obligatoires, des compétences facultatives et des compétences optionnelles. Donc, GEMAPI, de toute façon, on n'avait pas le choix, puisque l'État a obligé les intercos à avoir cette compétence en janvier 2018. Donc, c'est même pas une question de savoir si c'était opportun ou pas. Donc, on l'a prise. Et donc, du coup, ça nous modifie nos statuts. Ça a été validé en conseil de communauté. Et maintenant, toutes les communes vont à leur tour le passer en délibération. Et ça sera effectif. Donc, oui, je mets aux voix. Oui, Pierre.
Non, simplement, cette compétence-là, on se demandait effectivement, si on pouvait pas la conserver, bon, tu nous dis que c'est obligatoire, mais finalement, alors quel est le rôle du conseil? Il n'y a pas de discussion possible.
À partir du moment où quelque chose, comme on est membre d'une interco, même quand l'interco prend la décision, il faut que ça soit aussi validé par les autres communes. Et si les autres communes ne le validaient pas, ça pourrait remettre en question. Mais ça serait un peu particulier dans ce cas-là, ou puisque c'est obligatoire. Donc, c'est vrai que si c'était une lubie de notre part, on pourrait se dire, ça a été passé à l'interco et ça ne passe pas dans les communes. Mais là, je pense que ça va passer régulièrement parce que le problème ne se pose même pas, c'est obligatoire. Mais ça doit quand même être validé par le conseil des communautés qui l'a fait et par nos communes.
Allez, moi j'ai aussi une question. Vous aviez évoqué le fait qu'on avait l'autorisation, le droit de créer un impôt.
Je peux en parler. Ouais.
Et je savais, vous aviez aussi évoqué le fait que Alain Bompard avait refusé de le faire.
Jacques
Bompard, si vous voulez.
C'est un amalgame.
C'est pas le même Alain. Et avait décidé de refuser. Je voulais savoir où il en était sur cette position.
Voilà. Donc je comptais un peu vous en parler un petit peu à la fin, puisqu'on est dans le sujet. Donc concernant le GEMAPI, l'État a donc transféré la compétence. Il a surtout transféré les responsabilités. Je me souviens de l'ancien président Milon qui nous avait dit dès que ce GEMAPI est sorti, donc ça fait 3 ans que je suis président, mais tôt, ça fait moins 4-5 ans, il nous a dit « GEMAPI devient ma priorité parce que j'ai ma responsabilité qui est engagée ». Ça faisait un petit peu souci à ce côté-là. Donc désormais, parce que je reconnais que l'État a été un souffre-douleur, dès qu'il y a eu des problèmes d'inondation, eh bien, on a rendu l'État responsable. Donc, il a trouvé un petit peu un échappatoire en disant « Désormais, c'est plus moi qui serai responsable, ce sont les intercos qui n'auront pas fait les travaux sur les berges, sur les digues, sur les bassins de rétention, etc. » Donc, mais comme il nous a pas donné de moyens en contrepartie, il y a eu un tollé général, puisqu'on est depuis des années, l'État était compétent, et l'État avait des millions, des milliards de travaux réalisés qu'il ne faisait pas. Donc, il a dit, bon, mais par contre, je vous donne le moyen de financer, vous avez droit à créer une taxe, GEMAPI, qui est plafonnée à 40 euros par habitant dans vos intercommunalités. Voilà. Donc, chaque interco, je regarde les comptes rendus des offres interco, mettent en place cette taxe et la mettent en place en fonction de leurs besoins respectifs. Il y a des interco où ils considèrent qu'ils n'ont peu de digues, pas besoin de créer des bassins, etc. Donc, ils ont créé des taxes de l'ordre de 10 euros par habitant, puisque 40 euros, c'est le maximum où on peut aller. Alors, nous, on a fait le calcul de ce qu'on dépensait en fonctionnement aujourd'hui. Et déjà, aujourd'hui, en fonctionnement, GEMAPI nous coûte 1,3 million. Donc, moi, je souhaitais mettre 1,5 million. Donc, et Jacques Bompard n'était pas d'accord. Je le comprends, parce que lui, dans sa commune, il baisse les taxes. Et de ce coup, il dit, je vais me retrouver avec une taxe alors que je suis pour rien. Bon, il a fallu quand même que j'explique qu'il y avait des travaux à faire et puis il y avait des coûts de fonctionnement qui étaient lourds, parce que nous, depuis, on a recruté. On a un ingénieur, on a un technicien, etc. Donc, et on a validé 1 million d'euros, donc la taxe GEMAPI qui sera mise en place sur l'intercommunalité d'1 million d'euros. Et elle se répartit sur les ménages et sur les entreprises. Donc, ce qui fait que à la sortie, ça peut faire pour des ménages l'ordre de, par habitant, 15 euros, 16 euros, ça va être variable pour l'année. Hein. Donc, c'est pas si lourd que ça. Mais avec ça, alors en conseil de communauté, on a eu cette semaine, on a eu un peu différent avec Madame Autan, qui nous dit qu'elle n'était pas justifiée. Avec ça, on n'a pas chiffré. On est en train de faire chiffrer les coûts sur Cadrousse, sur Orange, des digues, c'est par millions d'euros. Voilà. Et là, de toute façon, on a mis ça parce que ça nous permet un peu de payer nos frais de fonctionnement, de lancer des études, mais je m'inquiète de l'avenir, quoi. Donc, moi, je me souviens d'avoir entendu, je vous rappelle que sur Croix-des-Eaux et Jonquière, on nous avait demandé de faire des bassins d'écrêtement de crues, il y en avait pour des millions. Bon, comme c'est l'État qui devait le faire, mais ça n'a pas été fait, je vais pas les engager, bon, encore aujourd'hui, hein, je préfère vous le dire. Voilà, mais c'est pour répondre à la question sur la taxe.
Simplement, Alain, au niveau de cette taxe nouvelle qui va grever budget des ménages. Est-ce que par ailleurs, la compétence concernant l'éclairage public venant à la CCPRO, est-ce que des études sont faites pour voir quelles sont les économies qui pourraient être réalisées sur un poste qui n'est quand même pas négligeable? C'est complètement différent, mais sur l'énergie dépensée pour l'éclairage, est-ce que on parle beaucoup d'éclairage LED ou des choses comme ça qui permettent de
faire... Je peux te répondre. Nous, au niveau de l'économie d'énergie, nous, à Courtaison, on a été bon élève, on a tout repris l'éclairage et on l'a divisé par deux la consommation. Donc, c'est ce qu'on demande à faire maintenant. Les autres communes sont en train de le faire. Donc, et justement, dans les compétences, puisqu'effectivement, il y a marqué aussi le syndicat d'électrification, on se heurte un peu au syndicat d'électrification qui avait certains privilèges qu'on est en train de lui enlever. Bon, puisqu'à un moment, les dotations qu'il reçoit de l'EDF, parce que le syndicat reçoit les dotations qui sont fléché courtisan, et mais qu'il gardait en partie pour lui. Ils avaient refait des statues où ils en gardaient encore plus. Donc là, on a réussi à rebattre les cartes. Et effectivement, donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est de revoir tous les systèmes. C'est fait à courtisan et c'est en train d'être fait dans d'autres communes. On devrait pratiquement diviser par deux la consommation d'énergie des communes de l'interco. Voilà. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Vous avez sur le point 8 le rapport annuel politique foncière 2017, c'est rapide. Conformément à la réglementation, il convient que le conseil municipal délibère sur le bilan des acquisitions et des cessions opérées par la collectivité. Alors, vu le code général des collectivités, considérant le rapport synthétique qui était joint à l'explicatif, il y a une feuille, le conseil municipal, il y a où l'exposé du maire, et après avoir délibéré, prend acte du rapport de la politique foncière. Donc, c'était résumé sur une feuille. Donc, les éléments que nous avons achetés en tant que terrain, beaucoup de terrain, hein, donc ça rentre dans l'esprit en particulier de la zone humide, de la protection de la zone humide des chlores et palus, et puis en bâti, une maison qui fait partie de l'îlot Roussière, à côté de la maison de retraite, puisque on voulait finaliser cet ensemble-là pour avoir une réflexion. Maintenant, on possède tout le quartier et on y travaille dessus pour savoir comment on va pouvoir l'aménager. Donc ça, on prend acte. Le point suivant, délibération d'intention, déploiement, fibre, très haut débit. Donc ça, je vous explique. C'est quelque chose qui en fait, voilà, je vous explique parce que c'est une délibération qui n'a pas une valeur juridique, c'est-à-dire elle n'était pas du tout imposée, c'est moi qui ai souhaité qu'elle soit étudiée en conseil municipal. Donc, je vous en explique un peu la genèse, parce que ben, c'est à la fois, enfin, c'est un arbitrage que j'ai trouvé difficile, et donc j'en ai parlé à mes élus, et je souhaitais que tout le monde y soit associé, mais en fonction de ce que, voilà, c'est après, nous, ce qui va sortir de là, eh bien, on dira au département, eh bien, écoutez, voilà notre façon de voir les choses. C'est pas une fait absolue. Peut-être que depuis, il y aura des négociations. Mais pour résumer, le département s'est engagé à couvrir tout le département avec la fibre optique. Donc, c'est une opération, si je me souviens bien, qui a un coût global de l'ordre de 60 millions. Donc, et alors, le principe qui est adopté, c'est que les grandes villes sont embranchées par les opérateurs privés, donc qui le font gratuitement. Et ils le font gratuitement parce que derrière, l'opérateur se nourrit des abonnements que les opérateurs ont avec toute la clientèle qui se passe là. Donc voilà, on écarte. Donc, ce qui fait que, par exemple, au niveau de notre intercommunalité, eh bien, Orange est fourni par Orange, d'ailleurs. Donc, et lui, il sort du circuit. Bon, lorsque l'opération s'est mise sur les rails, j'étais pas président encore, et il y avait à l'époque Bédaride et Sorgue. Et donc, Sorgue, pareil, c'est une grande ville, donc exonérée. Et là, il avait été question que, dans un premier temps, Bédaride et Châteauneuf bénéficient de cette fibre optique. Mais, a priori, c'est un peu dommage, mais enfin, il n'y avait pas forcément de financement d'évoquer. En gros, c'était le département nous apporte la fibre optique, donc il faut la prendre puisqu'il nous l'apporte. Bon. Donc, il y avait une délibération de principe qui avait été prise en disant, ben, ma foi, Bédaride a dit je la prends, Châteauneuf a dit je la prends. Bon. Bédaride sont partis, bon, et depuis, les choses ont avancé, et aujourd'hui, j'ai fait les comptes. Voilà. Et quand j'ai fait les comptes, je suis allé voir le département, je leur ai dit, attendez, c'est bien gentil, même si vous financez 80% de l'opération, il en reste encore pas mal à la charge de l'interco. Or, l'interco, notre interco n'a pas un euro à mettre dans cette opération. Elle ne l'a plus, pour être clair. Voilà. On fait attention, on serre les boulons. C'est pour ça qu'on fait de la mutualisation. C'est pour ça qu'on refuse des recrutements, etc. Voilà. On fait comme ça. Bien. Donc, du coup, on a dit, est-ce que les communes sont prêtes à prendre en charge le prorata qui va leur revenir dessus? Donc, les trois communes qui, alors, Châteauneuf, lui, le maire de Châteauneuf dit, mais moi, j'étais pas engagé, ça s'était engagé avant moi, on m'a dit que c'était offert, bon, moi, je veux bien recevoir la fibre optique, mais j'ai pas envie de la payer. Donc, Jacques Bompard, ben, il dit, écoutez, moi, on n'est pas concerné en tant qu'Orange, maintenant, si les communes veulent le faire, elles empruntent si elles n'en ont pas les moyens. Bon, on a fait chiffrer ce que représentait la fibre optique, et pour chaque commune, Cadrousse, Jonquière et Courthézon. Pour Courthézon, donc c'est une opération qui se ferait 2020, 2021, 2022, sur 3 ans. Donc, il y a une hypothèse basse et une hypothèse haute, donc qui fait que, c'est marqué dans la Libération, l'hypothèse basse, ça nous coûterait 1,3 million, et l'hypothèse haute, ça nous coûterait pratiquement 1,7 million. Bon, pour faire simple, ça signifie que si on dit oui, et par contre là, le conseil départemental fait le forcing, ils sont venus me rencontrer à la CCPRO, ils m'ont dit, si au mois de mars, vous n'avez pas dit oui, bon, eh bien, vous passez à côté. Moi, j'ai dit, mais moi, laissez-moi le temps de réfléchir et que je vois avec les autres communes. Donc, ce qui est clair, c'est que si on dit non, on passe à côté de la fibre optique, voilà. Bon, c'est clair. Je voudrais pas entendre dire Courthézon qui se targue d'être à la pointe justement des arrobases, etc. Bon, bien, à côté de ça, ils avaient la fibre optique, ils l'ont pas prise. De toute façon, la fibre optique, après, ça signifie que les gens devront s'y abonner. On est bien d'accord, hein, donc. Et à l'inverse, dire oui, c'est 2020, 2021, 2022, considérer que la commune devra sortir chaque année 500 000 euros pour cette fibre optique. Moi, personnellement, ça me met beaucoup dans l'embarras, parce qu'il s'agit en plus de ça d'un mandat suivant, et qui que ce soit, qui soit là, d'arriver à dire, on s'est engagé un peu vite dans une opération où ceux qui arrivent derrière doivent payer. Donc, je voulais vous en parler. Voilà, ça aurait été à la sortie un chèque de 200 000 euros, je sais comme ça, on y allait. Donc, et je sais que si on dit non, même le département va dire, ben vous êtes peut-être une des rares communes du département à l'avoir refusé. J'ai pas la réponse de Cadrousse, j'ai pas la réponse de Jonquière. Quant à Châteauneuf, ben il lui dit, je veux bien l'avoir, mais à condition que je ne la paye pas. Donc c'est pas forcément mieux non plus. J'ai dit à Claude Avril, il faut qu'il y ait une question d'équité. Je vois pas pourquoi nous on s'engagerait pour 1,5 million et que ta commune elle en bénéficie gratuitement. Même si son argument c'est de dire, mais moi à l'époque le président l'avait promis, le maire c'était pas moi, bon, donc ben je suis pas fautif. Donc voilà, moi je vous cacherai pas que je donne mon avis, mais je veux voilà, qu'on soit responsable. Entre dire qu'on reproche en 2020, on est passé à côté de quelque chose de technique, moi je suis convaincu que en 2020, vous voyez, les choses vont vite en matière électronique, et 2020-2021, il y aura des opérateurs qui nous feront des propositions et peut-être encore plus compétitives que ce qu'elles sont aujourd'hui. Je préférerais, moi, attendre que de dire on signe, et à partir du moment où on dit ça, eh bien, on sait qu'en 2020, 2021, 2022, dans les budgets à réaliser, vous voyez, les situations qu'on a pour arriver à avoir une autofinancement qu'on n'aurait pas à avoir, n'oubliez pas, je vous le dis, parce que c'est important, moi je mets tout à plat, l'État qui s'en sort toujours pas, a décidé qu'à partir de 2020, les collectivités territoriales n'auraient plus le droit d'emprunter. Donc, alors là, je veux dire, c'est le bouquet. Donc, ça signifie que à partir de 2020, ben celui qui n'a pas d'autofinancement, eh ben il fera vraiment plus rien puisqu'il ne pourra pas emprunter. Il ne restera plus que des subventions. C'est pour ça d'ailleurs, nous on se bat déjà pour avoir des subventions, mais ça fait pas tout les subventions. Hein. Subventions, ça te fait 30% où tu vas chercher les 70. Voilà. Donc je voulais vous le soumettre. Voilà, c'est une délibération de principe qu'on soit sur un petit peu. Quel est votre avis? Moi, je veux dire, ça soit opposition, soit majorité. Moi, je sais, Pierre, tu peux intervenir. Jérôme, tu peux intervenir. Moi, je veux bien avoir votre avis. Je vous donne le mien, personnellement, et parce que je considère que je n'ai pas envie d'engager. Vous voyez, je suis dans le concret. Je m'étais engagé, effectivement, à créer une salle de sport. Et quand j'ai vu comment l'État nous écrétait notre DGF et tout, eh ben, j'ai préféré supprimer la salle de sport, même si c'est pagué, plutôt que de mettre d'étrangler la commune pour des années à venir. Et là, c'est un peu la même chose, dans la même optique, se dire, on n'a pas fait de salle de sport, et on va mettre de l'argent dans quelque chose. Les chefs d'entreprise, je tiens à le dire, dans les zones d'activité, seront embrochés. Donc, comme c'est un outil économique, eux en bénéficieront. Bon, et on va mettre de l'argent pour des dans des endroits où il y a des familles, elles n'en auront rien à foutre. Je pense quel va être le taux d'utilisation de cette fibre optique. On n'a pas été capable de me le dire. Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 20%? On va mettre autant d'argent pour des opérations qui ne sont pas suivies. Voilà, encore une fois, la somme serait plus modeste. Je vous dis, allez, on est dans l'air du temps. Mais je vous le dis, si, selon la réponse qu'on donne, on a fait surtout si on dit qu'on n'est pas favorable, le département, il va me tirer la bourre, je veux dire, donc, mais bon, mais je me languis de savoir quelle va être la situation des communes qui ont dit oui, et qui dans 2-3 ans se retrouveront placées à payer l'addition. Parce que moi, du surendettement, j'en vois tous les jours, moi, dans ma commune, avec des ménagers qui ont dit, oh ben, je paierai plus tard, ça sera bien. Donc, je voudrais pas m'y engager. Voilà, je sais pas, Jérôme, Pierre, si vous,
Ouais, ben moi j'avais exprimé en commission des finances mon opposition parce que je suis convaincu comme vous et comme Nicolas que soit on va nous proposer quelque chose de moins cher avec d'autres opérateurs, soit la technique, la technologie va faire qu'il va y avoir une évolution et que autre chose va tomber. Donc pour moi oui, c'est un investissement trop lourd par rapport à l'efficacité et je trouve qu'aujourd'hui, enfin je sais pas, moi il m'arrive de télécharger des films et de les regarder en même temps, enfin voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors après, d'autant plus si les zones sont équipées pour les gens qui ont vraiment besoin d'un débit, c'est-à-dire les professionnels, économiquement, là, je comprends que l'opérateur a tout intérêt à les équiper puisqu'il y aura de la consommation. Mais voilà, à partir du moment où elles sont équipées, je trouve qu'il n'y a pas de raison que l'ensemble des administrés aient à payer pour ça.
Voilà. Merci Jérôme. Oui, Pierre. Appuie, s'il te plaît.
Voilà. Oui, voilà, oui, tu as donné un élément quand même important pour la réflexion qui était celui de dire les professionnels vont en principe être équipés directement. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple la fibre va arriver à la zone et puis un professionnel qui va se trouver dans un autre quartier de courtisan ne sera pas desservi? Ou bien est-ce que ceux-ci pourront malgré tout être raccordés, même s'ils sont relativement disséminés sur la commune? Parce que l'inquiétude c'est un peu ça. C'est effectivement pour avoir le très haut débit dans les ménages. À mon avis, ça présente pas d'intérêt. Puis la technologie va évoluer. Par contre, là où c'est peut-être un peu plus inquiétant, c'est voilà pour les professionnels qui sont disséminés sur la commune. Est-ce que eux vont pouvoir en bénéficier malgré tout?
Alors non, enfin non. Voilà, une zone d'activité, on la dessert facilement parce que d'un seul coup, on sait qu'il y a 100% de clients potentiels. Ensuite, un opérateur, enfin un entrepreneur isolé, d'où l'intérêt d'ailleurs, comme quoi, de les remettre dans des zones dédiées où au moins on a une logique pratique. Lui pourra. Donc, il ne bénéficiera pas de ce réseau qui est économique, mais par contre, il pourra s'arranger avec un opérateur qui peut, mais à des conditions qui seront plus chères. Donc, puisqu'aujourd'hui, on crée des réseaux, moi, il y a des gens qui sont venus voir et m'ont dit, je peux aujourd'hui bénéficier, mais c'est beaucoup plus cher que ce que j'aurais si on inondait toute la commune. Voilà, c'est l'arbitrage, il est là. Mais donc, je ne peux pas du tout garantir à un tiers qui, au cœur du village, doit travailler avec Hong Kong tous les jours, avec des réseaux, de se dire, bon, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier, puisque nous, si le cœur du village n'est pas ramifié, il ne pourra pas bénéficier.
C'est vrai que c'est quand même un petit peu embêtant, mais... parce que...
Mais aujourd'hui, le
très haut débit, il y a beaucoup d'entreprises, même petites, qui en ont besoin, disons, et c'est vrai que ça va peut-être être un peu limitatif, ça.
Voilà. Mais est-ce que cet entrepreneur isolé, là, nous rapporte l'équivalent de l'engagement? Moi, quand c'est une zone d'activité, je suis tranquille, quoi. Je veux dire, j'ai de la CFE, etc. et tout. Il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, d'ailleurs, hein, donc c'est très bien pour eux, c'est tout à leur mérite, qui travaillent avec des réseaux, mais l'investissement que je devrais engager, j'aurai jamais le retour. Voilà, structurellement, ils ont les besoins, et à ce moment-là, mais je travaille dessus. Je commercialise la zone d'activité, et j'ai des gens, je leur dis, venez vous installer sur la zone d'activité, on est en train de faire des petites structures, parce que là, vous aurez tout. Et c'est même aujourd'hui le secrétariat partagé, etc. C'est une bonne logique. Voilà, c'est... Donc, si vous voulez, voilà, c'est, on est, moi, ce que je voulais, je vous lis la délibération, mais c'est pour donner l'idée, hein, donc.
Alain, avant, je voulais.
Oui, Jérôme, tu t'es pas demandé.
Oui. Sans refaire tout le débat, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit. C'est vrai que c'est dommage, comme soulève Pierre, par rapport aux entreprises qui pourraient en avoir besoin, mais vu le coût du financement, on peut se poser la question. À juste titre, comme tu l'as dit, on nous aurait demandé 200 000 euros. Je pense que ce débat, on l'aurait même pas.
On l'aurait pas fait.
Hein, exactement. Ce que je regrette, c'est que je m'aperçois que même pour ça, finalement, c'est toujours les gros qui sont avantagés. Et que j'aurais aimé plutôt que le département mette les moyens. Alors je dis pas qu'il le fait pas, parce que j'ai pas toute la vision, mais qu'il mette les moyens ou qu'il aide les communes à lutter plutôt contre ce qu'on appelle le désert numérique, parce qu'aujourd'hui y a des gens, ils ont même pas l'internet à bas débit ils captent pas le téléphone, et puis pour eux on fait rien. C'est un peu dommage. Voilà.
C'est ce qu'on a dit d'ailleurs, la commune d'Orange qui est riche va être totalement dotée, alors qu'elle pouvait même faire l'effort s'il fallait accompagner quelque chose, et Jacques Bompard le reconnaît, mais il a dit mais moi au moins j'ai pas à m'en occuper. Alors nous on peut sonner quand même comme consolation que on a un réseau qui est correct par rapport à certaines zones de montagne ou de campagne où les gens, par contre, on n'en revient. Et là, c'est dramatique. Moi, je pense que ces gens-là, on devrait les aider financièrement et pas leur demander. Alors, le département va me dire, mais vous imaginez, monsieur le maire, nous, ce qu'on met, on met des millions d'euros. Vous, ce qu'on vous demande, c'est presque une paille. Mais à notre échelle, je considère que c'est pas une paille. Alors, maintenant, moi, je me dis que peut-être la délibération qu'on donne, si on dit qu'on est défavorable à un projet, est-ce que du coup, je vais pas faire du chantage, mais est-ce qu'ils se disent, bon, il y a, on est tombé sur un village gaulois, ben tant pis, on va faire un effort. Bon, ben, ça va faire tâche d'huile, parce que s'il a fait l'effort pour nous, il faudra qu'il le fasse pour d'autres. Mais moi, je pense quand même, je l'ai dit à M. Chabert, enfin au président, je pense que c'est une opération à laquelle on a dû être associés dès le départ. C'est-à-dire, ils ont fait une opération, ils ont dit c'est bien, on communique là-dessus, on est un département dynamique, très bien, tu as mis sur le tir de l'auréole. Mais après, ils se sont dit, bon, après le reste, vous voyez, on fait de gros efforts, on met 80%, il ne vous reste plus que 20% à mettre. Mais je crois qu'ils nous auraient dit dès le départ, et on aurait dit dès le départ, les 20%, on va faire combien aux communes? Tant, on leur a dit peut-être, attendez, ben, ne vous usez pas en études, etc. C'est peine perdue. Ou alors, revoyez le système. Hein, plus de ça, je veux dire, je considère, c'est pas comme si on disait, allez, il y a une voie ferrée qui va passer, si elle va venir, si elle passe pas, bon, pour se dire que si elle passe pas, elle passera pas dans 3 ans. Mais dans ce type de système, ça va tellement vite, que peut-être dans 4-5 ans, on va nous amener encore des éléments, on va se dire, finalement, on s'est pas trompé, quoi. Hein, voilà. Donc, je vous lis le projet de délibération. Le département a fixé dans son schéma directeur territorial, approuvé par délibération, ses objectifs en matière de niveau de services très haut débit et de technologie utilisée, fibre optique, pour son territoire. Il a fait le choix de la fibre optique FFTH, donc fibre optique jusqu'à l'abonné, je vous le dis en français, afin de développer une infrastructure haut et très haut débit sur le territoire. C'est une technologie sur support fibre optique qui permet d'acheminer les données depuis le réseau de l'opérateur de télécommunication jusqu'à l'usager. Cette architecture est comparable à DSL pour le raccordement des logements, liaison optique dédiée par usager, prise optique présente dans le logement, mais les débits attendus sont bien supérieurs, voire illimités. Révisé par délibération du 15 septembre 2017, le SDTAN voit une accélération du déploiement FTTH en zone publique et en un seul unique plan de déploiement consécutif au premier. Le second plan de déploiement a été présenté par le conseil départemental, parce que là on est dans le second, ils en ont déjà fait un il y a un petit moment. Donc ce second plan a été présenté par le conseil départemental des élus, la communauté des communes, le 15 janvier 2018. Il a été proposé à l'EPCI de déployer sur la commune de Cadrougeon, qui est Courtaisons, 6 169 prises. La proposition de plan de financement prévoit que la participation de l'EPCI soit calculée sur la base d'un taux prévisionnel ajoutable de 20% de la part publique. Donc, soit une participation prévisionnelle répartie sur 3 exercices, 2 pour Courtaisons, 1 690 000 pour le maximal, 1 328 000 pour le minimal. L'objectif de ce plan est que la zone d'intervention publique soit couverte totalement pour 2022. Dans l'hypothèse de ce conventionnement, la part correspondant à la commune de Courtaisons pourrait atteindre 595 000 à 775 000 euros environ chaque année sur 3 ans. Conseil municipal n'y a voulu exposer et avoir délibéré, c'est un avis de principe. Nous, je vous propose d'émettre un avis défavorable au conventionnement au titre de la commune de Corzon par la CCPRO au second plan du développement à zone publique avec le conseil départemental de Vaucluse. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, encore une fois. Ça veut dire que ça sera, pour moi, un élément de négociation. Voilà. Ben, je veux votre avis, je fais voter qui est pour cet avis. Alors donc on est d'accord pour un avis défavorable. Il faut bien comprendre le sens. Hein. Donc on vote pour un avis défavorable ou on vote contre un avis défavorable. Ou on s'abstient. Alors qui est contre cet avis défavorable? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. C'est un acte responsable. Je poursuis dossier 10. Demande de subvention, dotation, équipement, territoires ruraux, la DETR. Donc, au passage, il y a, dans la délibération que je vais vous lire, il y a, on a dû changer un pourcentage, hein, Nathalie, c'était 50% et c'est passé à 46%. La commune de Corzon s'est engagée dans un projet de construction d'une nouvelle crèche, 60 berceaux. Ce nouveau bâtiment comportera également une partie rame et un live. Au titre de l'exercice 2018, une partie des dépenses correspondantes à la création d'un site ont déjà été inscrites au budget. Le montant des dépenses est estimé à 1 828 000 euros hors taxes, 2 194 000 euros TTC. La loi de finances a créé la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Cette dotation vise à subventionner, entre autres, les projets d'investissement sur les bâtiments communaux de la collectivité. Vu la circulaire de Monsieur le Préfet présentant le dispositif de la DETR, il est proposé au conseil municipal de solliciter l'octroi de la DETR pour la création d'une crèche multi-accueil de Corzon à hauteur de 46,46%. On a pris le taux maximum qu'on pouvait avoir. D'une dépense subventionnable plafonnée à 700 000 euros, soit 325 220 euros. C'est-à-dire, donc, nous, le projet de 2 millions et quelques euros, il subventionne jusqu'à un plafond de 700 000 euros. Donc, si on arrivait à avoir cette subvention, plafonnée à 700 000 euros, on aurait 325 000 euros de subvention. Passage, par contre, qui est acquis pour cette crèche, c'est la subvention de la CAF, hein, qui sera de l'ordre de 600 000 euros. Le conseil municipal, il a voulu exposer du maire et après avoir délibéré, donc j'ai du vote, valide les travaux pour la création d'une crèche de l'ordre de 2 194 000 euros TTC, sollicite l'octroi de la DETR de 46,46%, soit 325 220 euros, dit qu'une partie de ces crédits sont inscrits au budget, dit que l'ensemble des pièces seront communiquées dans les meilleurs délais, certifie que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, autorise le maire à poursuivre toutes les démarches, à signer toutes les pièces administratives relatives à la présente délibération. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Toujours dans l'esprit de subvention, toujours pour la crèche, c'est une libération qui cherche à nouveau des subventions. La commune de Corzon s'est engagée dans un projet de construction d'une crèche. Au titre 2018, une partie des dépenses donc ont été inscrites, je vous lis le même texte. Il convient par la présente libération de solliciter l'octroi de subventions auprès de tout partenaire financier, on couvre large, pour la création de la crèche multi-accueil. Le conseil municipal y a voulu exposer du maire pour délibérer, valide les travaux, sollicite l'octroi de subventions auprès de différents partenaires et acteurs, dit qu'une partie de ces crédits sont inscrits au budget, certifie que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun commencement, autorise le maire à poursuivre toute démarche. Voilà, on prend une délibération pour toute source de financement qu'on peut espérer. Je mets de voix qui compte. Abstention, unanimité, je vous remercie. Le dossier 12 porte à nouveau sur la recherche de subventions concernant le clocher de l'église. Dans le cadre de la politique contractuelle du conseil départemental, ce dernier a informé la commune de sa volonté de poursuivre son soutien à la collectivité par la mise en place d'une contractualisation pour un montant de 80 978 euros. Il est proposé d'allouer cette dotation à l'opération restauration du clocher de l'église. Le montant des travaux est estimé à 506 140 euros hors taxe. La consultation des entreprises permettra d'affiner le montant exact des travaux. Le conseil municipal y a voulu exposer du maire, et après avoir délibéré l'objet du vote, approuve l'avenant au contrat triennal à le conseil départemental pour une subvention de 80 978 euros, dit que cette annuité sera affectée à l'opération restauration du clocher d'église, autorise le maire à signer le contrat, à intervenir avec le conseil départemental. Là, si vous voulez, c'est de fait. Le conseil départemental nous donne une somme, c'est nous qui l'affectons. On l'affecte à un projet où on est sûr que ça va se réaliser dans l'année, et comme c'est le cas du clocher, on l'affecte au clocher. Je mets aux voix qui est contre. Abstention, unanimité, je vous remercie. Le dernier point concerne l'enfance-jeunesse. la participation des familles au camp d'ado et surtout la participation de la mairie. Vous savez que chaque fois, nous sommes tripartites, hein, la CAF, les familles et la mairie. L'accueil jeune organisera du 31 mai au 4 juin un camp de 5 jours, 4 nuits en Corse, afin de participer à un raid aventure. Le groupe est invité par le département de Haute-Corse. Le camp présente une capacité de 6 places, 2 équipes de 3 participants et mobilisera un animateur. L'hébergement et la pension sont pris en charge par les organisateurs corse. Le coût total du séjour est estimé à 2 250 €, soit un prix de revient moyen par enfant de 375 €. La CAF MSA participe pour 520 €. Participation des familles est déterminée en fonction du quotient familial. Une participation moyenne de 720 € pour l'ensemble des gamins. Hein. Le différentiel entre dépenses et recettes sera financé par les municipalités. Sur le budget annuel alloué à l'accueil jeune, le montant est estimé à 1 010 €, soit 44,88% du prix de revient du séjour. En général, on est un tiers. Bon, là, on est donc un peu plus de tiers. Ça permet aux familles d'avoir moins à payer. Le conseil municipal, il y a où exposé du maire et présent avoir délibéré, objet du vote, approuve le plan de financement du camp d'ado, dit que les crédits correspondants sont prévus au budget. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Bon, ensuite, vous avez les décisions du maire. Écoutez, vous les avez sous les yeux. Si vous avez des questions à soulever-les, c'est assez rébarbatif, vous avez l'occasion de les lire. Bon, l'important, c'est de les communiquer. Bon, moi, je les ai lus, c'est surtout lié à nos à vie culturelle, etc., toutes les troupes qu'on reçoit. Donc, je profite quand même, je voulais dire deux mots en question diverses, et puis si les élus veulent intervenir, un mot sur le recensement. Donc, puisque le recensement vient de se terminer, il est terminé dans le sens du porte-à-porte. Donc, je rends hommage aux enquêteurs. Tout à l'heure, on était un petit pot de départ du professeur de sport qui est venu assurer l'absence de maternité de Anne. Il y avait Jordan qui a participé à ce recensement et qui m'a dit « je m'en rappellerai ». C'est-à-dire que on démarre, c'est formidable le recensement. Et puis après, eh bien, il y a des gens, il a fallu passer 5 fois, 6 fois, 8 fois, 10 fois. Bon, c'est un peu regrettable. Les gens qui ne jouent pas le jeu, c'est un acte civique. Je ne sais pas pourquoi, les gens pensent que derrière il va y avoir un côté fiscal. Voilà. Donc, nous sommes dans l'attente du résultat qui nous dira combien nous avons d'habitants sur la commune. Un deuxième point rapide, parce que j'aime bien que les choses soient claires. Si, voilà, vous avez dû voir, on a évoqué tout à l'heure le conseil de communauté. Donc, lundi, on avait un conseil de communauté qui s'est tenu au siège. Bon, si vous avez vu les journaux, vous avez dû voir que c'est un conseil de communauté qui était un peu chaud. Donc, je le regrette. Enfin, j'en prends acte, si vous voulez. La bonne nouvelle, c'est que ce conseil de communauté, en premier lieu, concernait le rapport d'orientation budgétaire que j'ai rapporté. Et ce rapport d'orientation budgétaire qui a duré 20 minutes s'est bien passé. Et c'est vraiment là où il y avait matière à débat. Bon, voilà. Et après, on a dérivé sur des bêtises. Maire de Châteauneuf qui s'est pris avec Monsieur Laroyenne, un élu d'opposition d'Orange, sur le tourisme. Et puis ensuite, avec Louis Biscarin. Et je voulais surtout insister là-dessus, qui du coup est revenu sur le fait que si il n'avait pas de zone d'activité sur Jonquière, c'était ma faute. Donc, et ça, je ne peux pas l'admettre. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai distribué à chaque élu communautaire, lorsque nous avons fait notre zone d'activité de la Grange Blanche, 10, 20 fois, j'ai dit à Louis Biscarin, prends ton PLU, rends ton terrain en zone d'activité, parce qu'au contraire, on a eu un moment des entreprises qui étaient intéressées, mais qui devaient s'étendre sur Courtaisan-Jonquière. J'ai pas pu les installer parce que Jonquière était toujours en zone agricole. Alors, ça n'est pas ma faute si aujourd'hui son opposant, en l'occurrence M. Vermeil, l'attaque un conseil municipal lui disant « à Courtaisan, ils ont fait des zones d'activité, à Jonquière, tu n'as pas été capable d'en faire ». Bon, ça c'est de la cuisine locale, j'ai pas à y intervenir. Je lui ai dit « je ne suis pas maire de Jonquière, si ton PLU tu ne l'as pas adapté, ça n'est pas ma faute ». C'est assez pénible parce que les journalistes ont fait un très bon travail, ils ont bien relaté les choses, il n'y a rien à dire. Bon, c'est vrai qu'on a eu une prise de bec et je voulais que tout soit bien compris, parce qu'on parle de zone d'activité, on peut se dire qu'est-ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que je continue à me battre pour la zone d'activité, puisque sur Jonquière, c'est une grange blanche 3, mais on est en train de travailler sur une grange blanche 4, parce qu'on a une très grosse opportunité d'une entreprise qui nous amènerait 400 emplois. Donc sur Jonquière, il peut pas s'y installer, c'est trop petit. Donc on est en train de travailler là-dessus, on a rencontré le préfet. Bon, je peux pas trop vous en dire mais voilà, c'est pour vous dire que c'est quand même un point qui est important. On entend des entreprises nous dire s'il y a un endroit qui est intéressant dans le département, c'est la Grange Blanche par rapport à la proximité de l'autoroute, mais ça on le sait tous, voilà. Alors après à nous de travailler en bonne entente avec ceux qui sont déjà et puis avec nos projets à venir. Voilà, vous avez sur vos bureaux le fascicule de l'office de tourisme qui a été fait, qui est un joli travail, qui montre le dynamisme. Claude Avril serait content que j'en m'entende, voilà, parce que bon, ils se sont un peu attrapés là-dessus avec Monsieur Laroyelle. Est-ce que vous avez les élus, Corinne, des annonces, José? Oui, vous avez vu que les travaux se déroulent en ce moment sur le parking Leclerc. Donc voilà, ça tourne, c'est qu'à le dire, puisqu'on va faire un rond-point bientôt. Donc c'est une étape qui est intéressante. Bon, ça passe bien. Les cours, désolé. José, tu veux intervenir, vas-y.
On peut dire un mot sur la passerelle qui va se faire entre la Barade et le lotissement Saint-Étienne.
Vas-y.
Pour permettre aux piétons de pouvoir circuler.
Tu as raison,
parce que ça a été un petit peu long, étant donné qu'on n'était pas propriétaire du lotissement Saint-Étienne, des voiries. Et donc, ça a traîné un petit peu le temps de signer chez le notaire l'acquisition de ces voiries. Donc là, maintenant, on a arrêté un devis et ça devrait se lancer d'ici peu. C'est la CPRO qui prend l'affaire en main. Voilà.
Merci, José.
Ça veut dire qu'ils ne seront plus obligés de passer par la route pour descendre.
C'est ça. Ils rejoignent, voilà, à l'intérieur. Alors, quand on est à l'intérieur, il y a une très belle voie à l'intérieur, mais après, on tombe à pic. Et on tombe sur lotissement voisin. Donc là, on rejoint ce lotissement voisin, et du coup, on arrive à la chapelle Saint-Étienne, et quand on arrive à la chapelle Saint-Étienne, on rejoint le trottoir, donc c'est sécurisé. Parce qu'effectivement, le long du mur de M. Monveig, ça c'est les marchés, c'est dangereux. Merci, bonne soirée à tous.